Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 65, Dav Samech He. Bonne écoute et bon limoud.
Ou bien, Chatat Haof, dans le cas où il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Chatat, chez Malko, chez Lolishma, qu'il a sacrifié avec l'intention qu'il s'agit d'un autre sacrifice, ou Mitzah Adam Chutz Lizmano, et il a aspergé le sang avec l'intention invalidante qu'il serait offert ou consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, O Shemalak Chutz Lizmano, ou bien s'il a sacrifié ce Korban Chatat avec l'intention invalidante qu'il serait offert ou consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, ou Mitzah Damo Shelo Lishma, et il a aspergé son sang avec l'intention qu'il s'agit d'un autre sacrifice, O Shemalak ou Mitzah Adam Shelo Lishma, ou bien s'il a à la fois sacrifié et aspergé le sang de cet oiseau avec l'intention qu'il s'agit d'un autre sacrifice, Zehu Shelo Karav Hamatir Kemitzvato, ceux-ci sont les cas où ce qui permet la consommation ou l'offrande du sacrifice n'a pas été effectuée ou offert correctement. C'est-à-dire le sang n'a pas été aspergé correctement, car il y a une autre invalidité dans le sacrifice, soit que le Kohen a eu l'intention invalidante qu'il serait offert ou consommé en dehors de l'endroit prévu par la Torah pour le faire, soit s'il s'agit d'un Korban Chatat qu'il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice. Dans ce cas, le pigoul ne prend pas effet, même lorsqu'il a eu l'intention invalidante qu'il serait offert ou consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire. Donc même si le sacrifice est invalidé, mais celui qui en consomme n'est pas sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. L'Echol Kezait Bachutz Kezait Lemachar, s'il a eu l'intention de consommer un morceau de la taille d'une olive en dehors de l'endroit prévu par la Torah pour le faire, et un autre morceau de la taille d'une olive le lendemain, c'est-à-dire après le moment prévu par la Torah pour le faire, ou bien Kezait Lemachar Kezait Bachutz, ou bien s'il a inversé l'ordre, il a eu l'intention de manger un morceau de la taille d'une olive le lendemain, donc après le moment prévu par la Torah pour le faire, et un autre morceau de la taille d'une olive en dehors de l'endroit prévu par la Torah pour le faire, en dehors du sanctuaire, Kechatsi Zait Bachutz, ou bien s'il a eu l'intention de manger un morceau de la taille d'une demi-olive à l'extérieur, donc en dehors de l'endroit prévu par la Torah pour le faire, Kechatsi Zait Lemachar, et un autre morceau de la taille d'une demi-olive le lendemain après le moment prévu par la Torah pour le faire, ou bien Kechatsi Zait Lemachar, s'il a inversé l'ordre, donc il a eu l'intention de manger un morceau de la taille d'une demi-olive le lendemain après le moment prévu par la Torah pour le faire, Kechatsi Zait Bachutz, et un autre morceau de la taille d'une demi-olive à l'extérieur en dehors de l'endroit prévu par la Torah pour le faire. Donc là aussi, il a eu les deux intentions invalidantes, Pasoul ve'en bo karet, le sacrifice est invalidé, mais celui qui en consomme n'est pas sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Amar Rabbi Houda. Rabbi Houda discute avec le premier auteur de la Mishnah et il disait à Klal, voici la règle générale. Im marchevet hazman kadma le marchevet hamakom, si l'intention invalidante concernant le moment, donc qu'il serait offert au consommé en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, a précédé l'intention invalidante concernant le lieu où serait offert au consommé le sacrifice. Donc c'est la première intention qui prend effet. Par conséquent, pigoul, le statut de pigoul prend effet, vechaevin alav karet, et celui qui en consomme est sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur. Mais si l'intention invalidante concernant le lieu où serait offert ou consommé le sacrifice a précédé l'intention invalidante concernant le moment où serait offert ou consommé le sacrifice, pasoul ve'en bo karet, le sacrifice est invalidé, mais celui qui en consomme n'est pas sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, car c'est la première intention qui prend effet. Celui-ci et celui-ci, soit celui à propos duquel l'intention invalidante concernant le moment a précédé l'intention concernant le lieu où le sacrifice serait consommé, soit l'autre à propos duquel l'intention invalidante concernant le lieu a précédé celle concernant le moment. Donc dans les deux cas, le sacrifice est invalidé, celui qui en consomme ne sera pas sanctionné par la peine du retranchement dans le monde futur, car finalement, il y a eu une autre intention invalidante. Dans ce cas, le statut de pigoul ne prend pas effet. La Gemara, plus haut, Daf Kaftet, Amoudbet, explique longuement ce passage. L'échol kechatizait ou l'actir kechatizait, s'il a une intention invalidante de consommer un morceau de la taille d'une demi-olive et de faire brûler sur l'autel un autre morceau de la taille d'une demi-olive, soit en dehors du moment prévu par la Torah pour le faire, soit en dehors du lieu prévu par la Torah pour le faire, dans les deux cas, kasher, le sacrifice est valable, chez en achila ve haktara mitstanfin, car une intention concernant la consommation par l'homme et une autre concernant le fait d'être offert sur l'autel ne s'associe pas pour former la taille requise qui est la taille d'une olive pour que l'intention invalidante prenne effet et invalide le sacrifice. Car pour que l'intention invalidante invalide le sacrifice, il faut que le Kohen ait eu une intention concernant un morceau de la taille d'une olive qui serait soit consommé, soit offert en dehors du lieu ou du moment prévu par la Torah pour le faire. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf Samech Dalet. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Samech à la 14e ligne du haut de la page au début de la Gemara. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah comment était offert l'oiseau comme Korban Ola. La Gemara va donc expliquer point par point ce que nous avons vu dans la Mishnah et les lois concernant l'offrande de ce Korban Ola. Nous noterons que nous avons vu quatre différences entre l'oiseau offert comme Korban Ola et celui offert comme Korban Khatat. Premièrement, la sacrification et l'aspersion du sang de l'oiseau offert comme Korban Ola se faisait dans la moitié supérieure de l'autel, contrairement à l'oiseau offert comme Korban Khatat, dont la sacrification était effectuée au sol et l'aspersion du sang était effectuée dans la moitié inférieure de l'autel. Deuxièmement, lorsque le Kohen sectionnait la colonne vertébrale d'un oiseau offert comme Korban Ola, il devait aussi séparer la tête du corps, donc sectionner les deux organes vitaux, tandis que pour l'oiseau offert comme Korban Khatat, il ne sectionnait qu'un seul des organes vitaux avec la colonne vertébrale. Troisièmement, pour l'aspersion du sang de l'oiseau offert comme Korban Ola, le Kohen écrasait le corps de l'oiseau pour faire gicler le sang sur la paroi de l'autel, tandis que pour le Korban Khatat, donc l'oiseau offert comme Korban Khatat, premièrement, le Kohen levait l'oiseau au-dessus de sa tête pour le rabaisser violemment et ainsi il faisait gicler le sang sur la paroi de l'autel, puis après il l'écrasait contre la paroi de l'autel pour faire couler le reste du sang le long de la paroi. Troisièmement, ce que nous voyons dans les psukim, l'oiseau offert comme Korban Ola était entièrement brûlé sur l'autel, tandis que celui offert comme Korban Khatat était consommé par les Kohanim. La Gemara va donc expliquer d'où nous savons ces différentes lois concernant l'oiseau offert comme Korban Ola. Alors la Gemara dit, Tanu Rabbanan no Chachamim ont enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Vaikra Aleph. Il s'agit donc du paragraphe concernant l'oiseau offert comme Korban Ola. Le pasouk commence par dire, si cet homme désire offrir un oiseau comme Korban Ola pour Akadosh Baruch Hu, il offrira des tourterelles ou des pigeonneaux comme sacrifice. Puis le pasouk poursuit en disant Vehikrivo, etc. Et le Kohen l'approchera vers l'autel et sectionnera sa tête. Alors la question se pose, Matalmud Lomar, qu'est-ce que le pasouk veut dire lorsqu'il dit Vehikrivo et il l'approchera, puisque finalement il a déjà dit qu'il offrira ses tourterelles ou ses pigeonneaux. Le pasouk aurait pu se contenter de poursuivre en disant et le Kohen sectionnera sa tête, etc. Alors la Braïta répond, le fiche est Neymar parce que le pasouk dit précédemment, au début de ce paragraphe, Vehikriv min hatorim o min bene ayona, et il approchera des tourterelles ou des pigeonneaux. Yachol, on aurait pu penser que Hamitnadev of loifrot mishne pridim, celui qui veut offrir un oiseau comme Korbanola, il ne doit pas offrir moins de deux oiseaux. Donc il doit impérativement offrir deux oiseaux comme Korban Ola, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit Vehikribo, et il l'approchera au singulier, à Philoprida Achatiavi, même un seul oiseau, il peut offrir comme sacrifice. La Braïta reprend le pasouk, donc qui dit, et le Kohen l'approchera vers l'autel. Alors lorsque le pasouk dit El Amisbeach vers l'autel, Ma Talmud Lomar HaKohen, pourquoi cette précision, le Kohen? La Braïta répond, Likvo lo Kohen, c'est pour fixer que seul le Kohen peut sacrifier cet oiseau. Shiachol, car on aurait pu penser, Valodinu, voici qu'on peut présenter un raisonnement a fortiori. Uma Benson, Si le petit mouton offert comme korbanola chez Kavalot Safon que la Torah a fixé comme endroit pour sa sacrification, la moitié nord de la cour du sanctuaire, lo Kavalo Kohen, quand même la Torah n'a pas fixé que ce soit impérativement un Kohen qui le sacrifie. Car en fait, même un étranger peut abattre, donc sacrifier ce sacrifice. Off chez lo Kavalo Safon, en ce qui concerne l'oiseau pour lequel la Torah n'a pas fixé la moitié nord de la cour du sanctuaire pour sa sacrification, Enodin Shloik Valo Kohen, n'est-il pas évident que la Torah ne fixe pas et n'exige pas qu'un Kohen fasse sa sacrification? Talmud Lomar, nous lisons selon la Shita Mukubetzet, HaKohen, le Kohen, Likvalo Kohen, pour fixer que ce soit impérativement un Kohen qui sacrifiera ce sacrifice. Yachol Yimlekenu Besakin, on aurait pu penser qu'il sectionne son cou avec un couteau, vedinhu, et on peut présenter pour cela un raisonnement a fortiori. Uma im shrita, si déjà en ce qui concerne l'abattage des sacrifices en général, qui se fait par la gorge, shelo kavala kohen, pour laquelle la Torah n'a pas fixé de kohen, quand même l'étranger peut sacrifier le sacrifice. Kavala kli, quand même la Torah a fixé que cette sacrification se fasse impérativement avec un ustensile, c'est-à-dire avec un couteau. Mlika chez Kavala Kohen, en ce qui concerne le sectionnement du cou de l'oiseau pour laquelle la Torah a fixé le Kohen, donc a exigé qu'impérativement un Kohen fasse cette sacrification. Enodin chez Kavala Kli, n'est-il pas évident que la Torah a aussi fixé et exigé que cette sacrification se fasse avec un ustensile, donc avec un couteau? Talmud Lomar, c'est pour cela que le Pasuk dit Ha Kohen, etc. ou Malak. Donc le Kohen l'approchera vers l'autel et sectionnera son cou. Alors, la Braïta précise, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit pour expliquer cette interprétation. Vechi ta'ale al dat ra shezar karev le gabi amizbeach. Peut-il te venir à l'esprit qu'un étranger qui n'est pas Kohen puisse s'approcher de l'autel? Puisque, comme nous l'avons vu, le Pasuk dit qu'il l'approchera vers l'autel. Il est évident que ça ne peut pas être un étranger. Et la Matalmud Lomar Kohen. Alors si c'est ainsi, pourquoi est-ce que le pasouk précise que c'est le Kohen qui l'approche vers l'autel? Rabbi Akiva répond, Shetehe Melika Beatzmo Shel Kohen. Le pasouk nous enseigne que le sectionnement du cou de cet oiseau doit être effectué avec le corps du Kohen. Donc c'est avec son ongle qu'il sectionne le cou et non pas avec un ustensile. Yachol Yim Lekena Ben Milemala Ben Milemata. On aurait pu penser qu'il peut effectuer cette sacrification soit dans la moitié supérieure de l'autel, soit dans la moitié inférieure de l'autel. Talmud Lomar, c'est pour cela que le Pasuk dit « Umalak, etc. vehiktir » et il sectionnera le cou de l'oiseau et le mettra à brûler sur l'autel. « Ma haktara berosh amizbeach » de même que le fait d'être offert pour être brûlé sur l'autel se fait uniquement au sommet de l'autel. « Af melika berosh amizbeach » ainsi le sectionnement du cou, donc la sacrification de l'oiseau offert comme korbanola, doit être effectué au sommet de l'autel. Le pasouk dit « Umalak » et il sectionnera son cou. « Mimoul oref » il doit le faire en face de la nuque, donc dans le cou à l'arrière de la tête. « Ata omer mimoul oref » est-ce que tu dis qu'il est vrai que c'est en face de la nuque ?« O eno elaminat savar » ou bien est-ce que c'est par la gorge qu'il sectionne les organes vitaux? La Braïta répond, Vedinhu, tu peux le déduire par un raisonnement. Neemar kan umalak, le pasouk dit ici dans Vaikra Aleph, umalak, et il sectionnera. Donc il emploie le terme de umalak. Veneemar lealan et là-bas, à propos de l'oiseau offert comme korban khatat, le pasouk dit dans Vaikra He, umalak, et il sectionnera son cou. Ma lehalan mimulorev, de même que là-bas dans Vaikra He, le pasouk dit clairement qu'il doit le faire en face de la nuque, donc dans le cou. Afkan, ainsi ici, à propos de l'oiseau offert comme korbanola, mimuloref, il le fera en face de la nuque, c'est-à-dire à l'arrière de la tête, au cou. Alors la Braïta demande, ima lehalan molek velo mamdil, si tu compares l'oiseau offert comme korban ola à celui offert comme korban khatat, tu peux dire de même que là-bas, dans Vaikrahe, concernant l'oiseau offert comme korban khatat, il sectionne le cou, mais ne sépare pas la tête du cou, c'est-à-dire il ne sectionne pas les deux organes vitaux. Afkan, ainsi ici pour l'oiseau offert comme korbanola, molek venom avdil. Il sectionne le cou sans séparer la tête du cou, c'est-à-dire sans sectionner les deux organes vitaux. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasuk dit Umalak veiktir. Il sectionnera son cou et il fera brûler sur l'autel. Mahaktara, de même que pour l'offrande sur l'autel, pour faire brûler les parties de cet oiseau, Harosh Leatzmo Vaguf Leatzmo, il met à brûler la tête toute seule et le reste du corps de l'oiseau, il le met à brûler à part, comme nous le verrons par la suite. Afmelika, ainsi en ce qui concerne le sectionnement de la tête, Harosh Leatzmo Vaguf Leatzmo, la tête est à part et le reste du corps est à part, donc il doit sectionner entièrement la tête en sectionnant les deux organes vitaux. La Braïta demande au Minayin, Shaktarat Harosh Beatzmo Vaguf Beatzmo, d'où sait-on que pour l'offrande sur l'autel pour les faire brûler, la tête est à part et le reste du corps est à part. La Braïta répond, Shenemar, car le Pasuk dit toujours dans Vaikra Aleph, à la suite de ce paragraphe, Vehiktiroto, etc., et il l'offrira sur l'autel pour le faire brûler. Donc le Pasuk répète à nouveau qu'il fera brûler cette offrande sur l'autel. Haréaktara Taguf Amura. Ce deuxième pasouk parle de l'offrande du corps de l'oiseau pour le faire brûler sur l'autel. Hamani Mekayem. Comment est-ce que je peux accomplir le premier pasouk, toujours dans ce même paragraphe, Victira Misbecha, et il les mettra brûler sur l'autel? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons de ce deuxième passage qui dit aussi qu'il faut faire brûler cette offrande sur l'autel? La Breta répond, Beaktarot Harosh. Hakatuv Medaber, ce premier pasouk parle de l'offrande de la tête pour la faire brûler sur l'autel. Finalement donc, nous avons ces deux psukim qui nous enseignent que la tête et le corps sont séparés et sont offerts séparément pour être brûlés sur l'autel. Le pasouk dit toujours dans le même paragraphe, Venimtsa Damo, et son sang sera giclé par une pression sur le corps. Autrement dit, il écrasera le corps de l'oiseau pour faire gicler son sang sur l'autel. Alors lorsque le pasouk dit Damo son sang, Kulo, c'est tout son sang qui doit être giclé sur la paroi de l'autel. Puisque le pasouk ne dit pas Midamo de son sang, nous apprenons de là que tout le sang doit être aspergé sur l'autel. El Kira Mizbeach, vers la paroi de l'autel. Nous apprenons de là, velo al kira kevesh, et non pas sur la paroi de la rampe d'accès à l'autel, velo al kira echal, et ni non plus sur les murs du sanctuaire. Ve'ezeze, et de quelle paroi parle-t-on? Ze kir ha'elyon, il s'agit de la paroi supérieure, donc de la moitié supérieure de l'autel. O enoela kir tarton, ou bien peut-être qu'il s'agit ici de la paroi inférieure, donc de la moitié inférieure de l'autel. Ve'dinhu, et d'ailleurs on pourrait la prendre par raisonnement, a fortiori, ma behema shechatata lemala, si déjà l'animal offert en tant que korban chatat, son sang est aspergé en haut, donc dans la moitié supérieure de l'autel, quand même olata lemata, lorsqu'un animal est offert comme korban ola, son sang est aspergé en bas, dans la moitié inférieure de l'autel, of shechatato lemata, l'oiseau offert en tant que korban chatat, dont le sang est aspergé en bas, dans la moitié inférieure de l'autel, comme nous l'avons appris dans le daf précédent, Enodin Sheolato Lemata, n'est-il pas évident que le même oiseau, s'il est offert en tant que Korban Ola, son sang sera aspergé en bas, dans la moitié inférieure de l'autel? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, Umalak Vehiktir Venimtsa Damo. Et il sectionnera son cou, et il l'offrira pour qu'il soit brûlé sur l'autel, et son sang sera giclé sur la paroi de l'autel. Peut-il te venir à l'esprit qu'après avoir offert le corps pour être brûlé sur l'autel, il va à nouveau écraser le corps de l'oiseau pour gicler son sang sur l'autel? Il n'y a plus de sang. Et nous ne pouvons pas dire non plus que ce premier passage qui parle de la tête, il est possible qu'effectivement la tête est offerte pour être brûlée sur l'autel avant que le sang soit giclé sur les parois de l'autel. Car nous avons dit précédemment que tout le sang doit être giclé sur la paroi de l'autel. Donc même le sang de la tête doit être aussi aspergé, donc écrasé contre la paroi de l'autel pour que son sang coule le long de cette paroi. Donc pourquoi le pasouk s'exprime de cette manière? Et là, plutôt, l'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner Mahaktara Berosh HaMizbeach, de même que l'offrande pour être brûlée s'effectue au sommet de l'autel, Af Mitsui, ainsi le giclement de son sang, Berosh HaMizbeach, s'effectue aussi au sommet de l'autel, donc dans la moitié supérieure de l'autel. C'est pour cela, donc, que le terme Hiktir se trouve entre le terme Umalak et le terme de Nimtsa Damo, pour nous enseigner que soit le sectionnement du cou, soit l'aspersion du sang, s'effectue au sommet de l'autel, comme l'offrande pourrait être brûlée sur l'autel. Haketsad, donc comment accomplit-il ce pasouk? Hayaole Bakevesh, il montait par la rampe d'accès à l'autel, ou ponait la sovev, et il tourne pour emprunter la rampe secondaire pour accéder à la passerelle qui entoure l'autel, ou balo le keren dromit mizrachit, et il arrive au coin sud-est, haya molek edrocha mimulorpa, il sectionnait son cou en face de la nuque, donc à l'arrière de la tête au cou, ou mavdil, et il sépare la tête du corps en sectionnant les deux organes vitaux, ou mematse midama al kir hamizbeach, et il écrase l'oiseau pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel, im asa'a le matameraglav a filouama, et s'il a sacrifié cet oiseau et a giclé de son sang en dessous de ses pieds, c'est-à-dire en dessous de la passerelle, même s'il s'est éloigné d'une coudée du bas de la passerelle, kshera, l'oiseau est valable, car finalement, il a aspergé son sang sur la moitié supérieure de l'autel. Car en effet, la moitié de l'autel, donc la ligne rouge qui marque la limite entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de l'autel, se trouve à une coudée en dessous de la passerelle qui entoure l'autel. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov omrim, kol atzma en nasit ela berosh hamizbeach. L'offrande, donc l'aspersion du sang de cet oiseau offert en tant que korbanola, ne se fait qu'au sommet de l'autel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sous la passerelle, comme l'a dit le premier auteur de la Braïta. Alors la Gemara demande, Maï Benayou, quelle différence y a-t-il entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov? Autrement dit, en quoi discutent-ils? Pourquoi, selon le premier auteur de la Braïta, on peut asperger le sang de cet oiseau, même sous la passerelle, tandis que selon Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne le peut pas? Car forcément, ils sont tous les deux d'accord sur le fait que nous avons comparé l'aspersion du sang à l'offrande sur l'autel, car sinon le premier auteur de la Braïta ne peut pas savoir que l'aspersion du sang se fait dans la moitié supérieure de l'autel. L'agma répond à Bayev Rava d'Amre Tarvayou, disent tous les deux, Ose Maharacha Algabe Sovev Ikabenayou. Le point de discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov est à savoir s'il est possible de faire un foyer sur la passerelle qui entoure l'autel ou non. Selon le premier auteur de la Braïta, on peut le faire. Par conséquent, l'aspersion du sang se fait sur la paroi qui est proche du foyer, ou plutôt là où on peut faire le foyer. Tandis que selon Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne peut pas faire de foyer sur la passerelle qui entoure l'autel. Forcément donc, si on veut asperger le sang sur la paroi qui est proche du foyer où on va offrir le corps de ce sacrifice, il faudra le faire sur la moitié supérieure de l'autel, mais au-dessus de la passerelle. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Balo le gouf, etc. » Lorsqu'il vient s'occuper du corps de l'oiseau qu'il a offert comme sacrifice, il arrache le jabot avec la peau et les plumes qui se trouvent au-dessus. Alors la Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Le pasouk dit dans Vaikra Aleph concernant l'oiseau offert comme korbanola, Vehesir et Murato be Notsata. Il enlèvera son jabot, apparemment avec sa plume. Alors la Braïta commence par interpréter le début du pasouk qui dit il enlèvera son jabot. Yachol Yakdir Besakin Veitlenu. On aurait pu penser qu'il perfore le cou de l'oiseau avec un couteau pour enlever uniquement le jabot, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, Benotzata, avec sa plume. Notel et Hanotzaima, il doit prendre la plume, donc la peau avec les plumes qui se trouvent au-dessus, en même temps que le jabot. Comme l'explique le Rehem sur le Rashi dans le Chumash, selon le premier auteur de la Braïta, les intestins sont inclus avec le jabot, car finalement, il s'agit des parties sales de l'oiseau qui ne peuvent pas être offertes sur l'autel, voire aussi le Levushahora. Abba Yossi ben Hanan Omer, note là, il prend le jabot, v'notel kurkevanaima, il prend avec aussi l'estomac, donc les intestins. Selon lui, le terme notsata veut dire les parties sales. Donc selon lui, on enlève uniquement le jabot avec les intestins, mais sans la peau et les plumes. De Be Rabbi Ishmael Tana, il est enseigné dans une braïta dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Benotsata, avec sa plume, c'est-à-dire Benotsa Shela, uniquement avec sa plume. C'est-à-dire Kodra Besakin Keminaruba, il perfore le cou avec un couteau comme une fenêtre pour enlever uniquement la peau et les plumes qui se trouvent sur le jabot sans prendre plus que cela. Il est possible que selon le premier auteur de la braïta, il peut prendre un petit peu plus en arrachant la peau.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Samechei Amud Bet. La Guémara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Shisa velo hivdil ». Il déchire l'oiseau par le dos, mais ne sépare pas l'oiseau en deux parties. La Guémara dit là-dessus « Tanu Rabbanan ou Chachamim » ont enseigné dans une braïta « Veshisa » et il déchirera « En shisa el abeyad » Le terme « shisa » ne veut dire qu'avec la main, c'est-à-dire il ne prend pas un couteau pour couper l'oiseau en deux, mais plutôt il le déchire avec la main. Vechen hu omer, et ainsi le pasouk dit dans Shoftim Yud Dalet concernant Shimshon qui a attaqué le lion, le pasouk dit Vaishase ehu keshasa hagedi, et il l'a déchiré comme on déchire un chevreau. Cela veut dire donc avec la main, comme là-bas nous voyons que Shimshon a attaqué le lion avec ses propres mains. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Lohesir itamora » etc. S'il n'a pas enlevé le jabot, etc., tout changement qui a été fait dans ce sacrifice après l'aspersion du sang n'invalide pas le sacrifice. Mais la Mishnah poursuit « S'il a séparé les deux organes vitaux lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme korban khatat, ou bien s'il n'a sectionné qu'un seul des deux organes vitaux lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme korban ola, il s'agit donc d'un changement qui a eu lieu avant l'aspersion du sang, le sacrifice est invalidé. » En la Gemara dit là-dessus, « Matnitin de lo ki Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, de Tanya, car il est enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, shamati shemavdilin bechatat haof, j'ai entendu qu'il est possible de séparer la tête de l'oiseau, donc de sectionner les deux organes vitaux dans un oiseau qui est offert comme korbanola. Selon lui, donc dans ce cas, le sacrifice n'est pas invalidé. Alors la Gemara demande, Maï ben Ayou, quelle différence y a-t-il donc? Quel est le point de discussion entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et l'auteur de notre Mishnah? La Gemara répond, Amar Rav Chisda, Mitsui Chatat Haof Me'akev Ika ben Ayou. Le point de discussion entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et l'auteur de notre Mishnah est à savoir si le fait d'écraser le corps de l'oiseau contre la paroi de l'autel pour faire sortir son sang est impératif pour que l'oiseau offert comme korban khatat soit valable ou non. Tanaka va savoir, le premier auteur, donc l'auteur de notre Mishnah pense, Mitsui khatat haof me'akev, le fait d'écraser le corps de l'oiseau offert comme korban khatat est impératif pour que ce sacrifice soit valable. Vekivan de Mitsui dam, nous lisons selon le Bach me'akev, et puisque le fait d'écraser l'oiseau pour faire sortir son sang est impératif pour que ce sacrifice soit valable, Ka'avid ma'ase ola bechatataof, il se trouve, s'il a sectionné les deux organes vitaux, qu'il a fait pour cet oiseau offert comme korban khatat, toutes les actions nécessaires pour l'oiseau offert comme korban ola. Donc finalement, dans ses actions, il aurait transformé ce korban khatat en korban ola, et comme nous le verrons au début du chapitre suivant, ce sacrifice sera donc invalidé. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Savar pense, Mitsui khatataof, l'homme est akev. Le fait d'écraser l'oiseau offert comme korban khatat pour faire sentir son sang n'est pas impératif pour que le sacrifice soit valable. Nous lisons selon la Shittam Kubetzet, Hilkar, c'est pourquoi, en sectionnant le deuxième organe vital, ou mechater basar be'almahu, nous considérons qu'il a simplement coupé de la viande, et dans ce cas, il n'écrasera pas le corps de l'oiseau pour faire sortir son sang, ainsi, il y aura une différence entre ce korban khatat et le korban ola en général. Rava Amar, Shehiya besiman sheni beolat haof me'akev ika benayu. Le point de discussion entre ces deux tanaïm est à savoir si le fait de s'arrêter avant le sectionnement du deuxième organe vitaux dans l'oiseau offert comme korbanola empêche le sacrifice d'être valable ou non. Donc, selon Rava, le point de discussion, c'est concernant la sacrification elle-même et non pas concernant l'aspersion du sang par la suite. En général, lorsqu'on sacrifie un animal, il est interdit de s'arrêter pendant le sectionnement des deux organes vitaux. En le faisant, la sacrification est invalidée et donc l'animal est interdit à la consommation ou bien le sacrifice est invalidé. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un oiseau, Minatora, le sectionnement d'un seul des deux organes vitaux est suffisant. C'est pourquoi la question se pose, est-ce que s'il désire quand même sectionner les deux organes vitaux, le fait de s'arrêter au milieu va-t-il invalider la sacrification ou non? Nous devons ajouter que comme l'Agmara l'explique dans Maseret Roulin Daf Kaf Alef, lorsque le Kohen sectionne le cou de l'oiseau, donc par l'arrière, il doit tout d'abord sectionner la colonne vertébrale, puis un ou deux des organes vitaux selon le cas, puis immédiatement après, il doit sectionner au moins la majorité de la viande du cou. Donc, lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme korbanola, il sectionne la viande du cou après avoir sectionné les deux organes vitaux, il ne peut pas le faire avant, comme la Gemara l'explique dans Maseret Roulin, tandis que lorsqu'il s'agit d'un korban khatat, il doit sectionner la viande du cou immédiatement après avoir sectionné un des deux organes vitaux. Donc forcément, lorsqu'il voudra sectionner le deuxième organe vital pour le korban khatat, il le fera après avoir sectionné la viande du cou. Donc finalement, il y a eu un arrêt entre le sectionnement d'un des organes vitaux et le second. C'est pourquoi Tanakama Savar, le premier auteur de, donc l'auteur de notre Mishnah, pense Shehiya Besiman Sheni Beolat Haof Lomeakev, le fait de s'arrêter avant de sectionner le deuxième organe vital pour l'oiseau offert comme korbanola n'empêche pas ce sacrifice d'être valable. Vafalgav de Shahiye, par conséquent, lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme korban khatat, même si, comme nous l'avons expliqué, forcément, il s'est arrêté entre le sectionnement du premier organe vital et le second, Ka'avid Maase Ola Bechatat, pour cet oiseau offert comme korban khatat, il a fait toutes les actions nécessaires pour qu'il soit un korban ola, autrement dit, il l'a transformé en korban ola, pour ainsi dire, par ses actions, et comme nous le verrons au début du chapitre suivant, le sacrifice est par conséquent invalidé. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon de Savar, Me'akev, le fait de s'arrêter entre les deux organes vitaux pour le korban ola empêche le sacrifice d'être valable, c'est-à-dire qu'il faut sectionner impérativement ces deux organes vitaux sans s'arrêter entre les deux. Par conséquent, Vekivan Deshahye, lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme korban khatat, puisqu'il s'est arrêté forcément entre le sectionnement des deux organes vitaux, car il a dû sectionner la majorité de la viande du cou, Mechater Basar Ba'almaou, il se trouve que lorsqu'il sectionne le deuxième organe vital, il coupe simplement de la viande, le sacrifice restera toujours valable, car nous ne pouvons pas considérer qu'il a agi pour ce korban khatat comme s'il s'agissait d'un korban ola. Abaye Amar, Rov Basar Me'akev Ika Benayou, le point de discussion entre l'auteur de notre Mishnah et Rabbi Elazar Rabbi Shimon est à savoir si le sectionnement de la majorité de la viande du cou, après le sectionnement des organes vitaux, est impératif pour que le sacrifice soit valable ou non. Selon l'auteur de notre Mishnah, le sectionnement de la majorité de la viande du cou n'est pas impératif. Par conséquent, même si nous disons que le fait de s'arrêter entre le sectionnement des deux organes vitaux invalide le sacrifice, mais puisque ce n'est pas impératif de sectionner la majorité de la viande du cou, il est donc possible qu'il ait sectionné les deux organes vitaux avant d'avoir sectionné la viande du cou pour ce korban khatat, et c'est pourquoi le sacrifice est invalidé, car il a agi pour ce sacrifice comme s'il s'agissait d'un korban ola. Tandis que selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, le sectionnement de la majorité de la viande du cou est impératif pour que le sacrifice soit valable. Donc pour que le korban khatat soit valable, il est impératif de sectionner cette viande immédiatement après avoir sectionné un des deux organes vitaux, avant de sectionner le deuxième. Il s'est donc arrêté entre le sectionnement des deux organes vitaux, ce qui aurait invalidé le sacrifice s'il s'agissait d'un korban ola. Finalement, il n'a donc pas agi pour ce korban khatat comme s'il s'agissait d'un korban ola. C'est pourquoi le sacrifice est valable. Ubiplukta de Rabbi Zera ve Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak. Et cette discussion entre Abaye et Rava est la même que celle qui existe entre Rabbi Zera et Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. En effet, Chadamar, un des deux, dit Shehiya Besiman Sheni Beolat Haof Meakevi Kabinayu. Le point de discussion entre Rabbi Lazar, Rabbi Shimon et l'auteur de notre Mishnah est à savoir si le fait de s'arrêter avant de sectionner le deuxième organe vital lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Ola empêche le sacrifice d'être valable ou non. Donc, comme nous l'avons expliqué selon Rava, Vechadamar, tandis que l'autre pense, Rov Basar Meakevi Kabinayu, le point de discussion entre les deux est à savoir si le sectionnement de la majorité de la viande du cou est impératif pour que le sacrifice soit valable. Donc, comme nous l'avons expliqué, selon Abaye. La Gemara déduit Miklal de Bainan Rov Basar Bitrila. Nous déduisons donc de là qu'a priori, il faut sectionner la majorité de la viande du cou. La Gemara répond oui, effectivement, c'est ainsi. Vatania, effectivement, il est enseigné ainsi dans une braïta. Ketzad Molkin Chatataof. Comment est-ce qu'on sectionne? Donc, comment on opère la melika pour l'oiseau offert comme korban chatat? La braïta répond, Choter Shedra Umafreket, il sectionne la colonne vertébrale avec la moelle épinière, Belor of Basar, mais sans la majorité de la viande du cou, Adche Magia le Veshet ou le Kane, jusqu'à ce qu'il arrive à l'œsophage ou à la trachée artère, Higia le Veshet ou le Kane, lorsqu'il arrive à l'œsophage ou à la trachée artère, Choter Siman Echad, il sectionne un des deux organes vitaux, Orubo, ou la majorité de cet organe vital, Verov Basarimo, et avec cela, il sectionne aussi la majorité de la viande du cou, ou Beola, et lorsqu'il s'agit d'un Korbanola, Shnaim, Orov Shnaim, il sectionne les deux organes vitaux, ou la majorité des deux organes vitaux. Nous noterons que la Gemara dans Maseret Chulin, Daf Kafalef, explique qu'en fait, la Braïta mentionne deux avis. En effet, selon les Chachamim, il faut sectionner entièrement un organe vital lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Chatat, et il faut sectionner entièrement les deux organes vitaux lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Ola, tandis que selon Rabbi Lazar Rabbi Shimon, il suffit de sectionner la majorité d'un organe vital lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Chatat, et la majorité des deux organes vitaux lorsqu'il s'agit d'un oiseau offert comme Korban Ola. La Gemara explique là-bas comment chacune des opinions déduit cela des psukim. Amruha Kameh de Rabbi Irmiya, des élèves ont répété cette discussion devant Rabbi Irmiya. Amar, Rabbi Irmiya dit là-dessus, Lo Shamia Lehu, est-ce que ces sages n'ont-ils pas entendu Had Amar Rabbi Shimon ben Eliakim Mishum Rabbi Elazar ben Padat Mishum Rabbi Elazar ben Shamua, Omer Haya Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Elazar avait l'habitude de dire, Shamati Bechatat Haof Shemavdilim, j'ai entendu qu'on peut séparer la tête du cou, donc sectionner les deux organes vitaux pour un oiseau offert comme Korban Chatat. Ou Maï Loyavdil, et que veut dire le Pasuk lorsqu'il dit concernant l'oiseau offert comme Korban Chatat, il ne séparera pas la tête du cou.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.